France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Depuis les années 80, l'hystérie ne figure plus dans les classifications des manuels psychiatriques. Pourtant, le terme circule toujours dans les hôpitaux et les tribunaux. Que désigne-t-il vraiment et quelle est sa valeur médicale ? Nommé par Hippocrate, l'un des pères de la médecine, cette pseudo-pathologie a revêtu pendant deux millénaires des explications fantaisistes, causées par un utérus sauteur ou par un pourrissement des fluides. Au XIXe siècle, les neurosciences naissantes s'en emparent, puis Freud et Charcot ont tous deux contribué à construire l'image de l'hystérique avec la saisissante iconographie de la pitié salpêtrière qui a marqué nos imaginaires. Elle n'existe pas en tant que maladie, mais l'hystérie a laissé des traces stigmatisantes. En quoi son histoire révèle-t-elle des stéréotypes de genre qui ont traversé et qui traversent encore la médecine? Hystérie, une histoire à devenir folle. Et bonjour Pauline Chanu.
Bonjour Natacha.
Vous êtes journaliste et documentariste, vous êtes l'autrice de « Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes » qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Et vous êtes aussi l'autrice de l'excellente série documentaire « Les fantômes de l'hystérie » en 2023 sur France Culture. Béatrice Garcin, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes neurologue à l'hôpital Avicienne à Bobigny, chercheuse à l'ICM et professeure de neurologie à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Et nous sommes en ligne également avec Muriel Salle, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes historienne maîtresse de conférence à l'université Claude Bernard Lyon 1 et vous avez publié avec Catherine Vidal « Femme et santé, encore une affaire d'homme » aux éditions Bellin en 2017. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture et puis merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors, dans l'histoire des sciences, comment cette pathologie a-t-elle été comprise? Comment ces patientes ont-elles été prises en charge? Et aujourd'hui, quelles en sont les réminiscences? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, qu'appelle-t-on hystérie? La question est posée en 1952. Ça grésille, c'est notre archive du jour.
En pratique, j'appelle hystérie des malades présentant une singulière facilité à la désagrégation mentale qui, sous l'influence d'un choc émotif, d'une dépression ou d'une intoxication légère, une remarquable suggestibilité et conserve avec persistance des idées fixes dans un champ de conscience rétréci pour le reste. Il faut donc, chez de tels sujets, où les associations hystéro-organiques sont très fréquentes, mettre à part de l'hystérie les diverses affections organiques caractérisées par des signes objectifs. Et d'autre part, après avoir éliminé tout ce qui ressortit à la neurologie organique sensorio-motrice et végétative, essayer d'analyser dans le psychisme de l'hystérique ce qui, à côté du pitiatisme, dépend du nervosisme, de l'hypnose, de la suggestion, hétéro- et autosuggestion, de l'exagération, la dramatisation, le bovarisme, l'insincérité, la simulation. En résumé, toutes les causes déprimantes, comme les causes les plus variables, les plus imprévues, agissant sur le moral des sujets, préparent le terrain à l'hystérie et deviennent chez eux le point de départ d'autosuggestion, entraînant l'apparition des accidents. C'est ce qu'on observe souvent chez les malades qualifiés d'hystéro-neurasthéniques.
Voilà un extrait de l'Université Radiophonique Internationale diffusé sur la RDF en 1952. Pauline Chanu, on entendait là dans cette archive un très grand nombre de mots-clés hein, qu'on retrouve dans l'histoire de l'hystérie.
Oui, c'est ça. En fait, l'hystérie n'a pas de définition depuis ses origines. En fait, elle a une définition qui change tout le temps. On la voit apparaître autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. On ne parle pas vraiment d'hystérie à ce moment-là, mais de suffocation de matrice ou de maladie de la matrice ou de fureur utérine. Enfin, il y a plein de synonymes de l'hystérie. Et on se rend compte que depuis donc plus de deux millénaires, les médecins s'acharnent à trouver une définition. Et là, on entend encore dans cette archive que c'est compliqué, puisque selon moi, et c'est le point de départ de mon ouvrage, l'hystérie n'existe pas comme maladie.
Vous, en tant que neurologue, Béatrice Garcin, comment vous avez écouté cette archive?
Alors, moi, c'est amusant ce que j'entends là, c'est qu'en fait, il y a des descriptions, des signes qu'on retrouve et qu'on redécrit aujourd'hui dans les troubles neurologiques fonctionnels,
les notamment TNF.
Les troubles, voilà, les ouais. TNF, notamment Alors, il parle de la suggestibilité, le fait que les patients qui souffrent de troubles neurologiques fonctionnels sont plus suggestibles. Ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment démontré de manière certaine. Il y a peut-être quelques données qui vont dans ce sens, mais en tout cas, on sait que les croyances, les attentes des patients vis-à-vis de ce que leur corps peut faire est un élément clé dans la physiopathologie, dans le déclenchement de ces troubles. Il parle de signes objectifs, et là, ça me rappelle les signes positifs, en fait, les choses que nous, neurologues, on va rechercher à l'examen clinique et qui sont en faveur du diagnostic de troubles neurologiques fonctionnels, mais peut-être qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Et puis, il parle de rechercher les éléments psychologiques qui ont pu déclencher ça. Et là, ça évoque les facteurs qu'on va encore rechercher aujourd'hui, les facteurs prédisposants, précipitants et perpétuant les symptômes. Donc, il y a des choses, en fait, dans cette description qui persistent dans notre vision aujourd'hui du TNF.
Et on reviendra évidemment, en effet, sur cette vision plus contemporaine sur les TNF, les troubles neurologiques fonctionnels. Mais d'abord, Muriel, ça, je voulais également avoir votre écoute de cette archive.
Moi, je suis très frappée par le fait qu'on a relevé tous les mots-clés qu'on entend dans cette archive. Mais moi, il y a un mot-clé qu'on n'entend pas. Et en même temps, je trouve qu'il résonne presque de manière sublimée à nos oreilles. C'est le mot « femme ». Il n'y a jamais le mot « femme ». Et peut-être que quand on, comme moi, on pratique un petit peu la communication non discriminante et qu'on s'adresse à celles et ceux, ben là, on entend bien qu'on nous parle des sujets, qu'on nous dit « chez eux », voilà. Et pourtant, moi, j'entends en creux, presque tout au long de cette archive, l'idée qu'au fond, c'est bien de femmes qu'on parle. Et peut-être deux petits points à l'appui de ça. Par exemple, il y a l'évocation du bovarisme, qui est une évocation transparente à la figure d'Emma Bovary. Donc voilà, un personnage de roman, mais qui donne lieu à une catégorie psychiatrique. Bon, et puis, même dans ce qui a été très bien dit juste avant sur la question de la suggestibilité, pardon, c'est quelque chose qui est aussi qui traverse l'imaginaire qu'on a du corps des femmes, quand on s'intéresse à la santé des femmes, c'est le fait que les femmes ont des organismes et des psychismes qui sont influençables. Les femmes, elles sont soumises alors aux éléments, à la lune, à l'extérieur ou à l'intérieur d'elles-mêmes. On va y revenir, je pense. Hein. La force de la matrice de l'utérus qui pilote en quelque sorte de manière automatique les femmes. Mais moi, je trouve ça très frappant, quoi. Les questions jamais de femmes, et pourtant elles sont tout du long, à mon avis, dans cette archive.
Et elles sont tout du long de cette histoire, puisque c'est surtout une maladie entre guillemets maladie associée aux femmes. Pauline Chanu. Finalement, c'est un peu une maladie caméléon. On a un tableau clinique qui est très varié, très flou.
Oui, et juste pour rebondir sur ce que vient de dire Muriel sur la suggestibilité, on se rend compte que c'est encore un terme qu'on retrouve aujourd'hui dans le DSM, donc le manuel diagnostique des troubles mentaux psychiatriques qui sert de manuel de base pour tous les psychiatres dans le monde. Et donc, par exemple, dans le trouble histrionique, on y reviendra sûrement plus tard, mais on retrouve la suggestibilité des patients, et donc des patientes, puisque comme Muriel, moi aussi, j'entends en creux toujours les femmes. Et donc, pour revenir à l'hystérie. Bon, déjà, hystérie, ça vient de utérus, hystéra. Donc, c'est difficile de pas entendre qu'on parle des femmes tant qu'on continue à parler de hystérie ou hystéro ou hystérie de conversion. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, l'hystérie, depuis le début de son histoire, les médecins s'acharne, s'évertue à essayer d'en trouver une définition, mais on se rend compte qu'ils peuvent aussi bien essayer de diagnostiquer des femmes qui vont trouver frigides, des femmes qui vont trouver nymphomanes, que des femmes qui vont, convulser et présenter plutôt des symptômes qui ressembleraient à de l'épilepsie, des femmes qui ont des maux de tête, des femmes qui se pâment, mais alors il y a une époque où on va parler de vapeur, des femmes en effet neurasthéniques et effectivement avec tout cet imaginaire du bovarisme. Donc en fait, plein de réalités différentes, et on se rend compte que c'est un diagnostic qui a enfermé finalement tous les types de femmes depuis des siècles.
Voilà, une constellation de symptômes et de causes, comme vous le dites, hein, tout part en effet du corpus hippocratique, avec ce mot qui vient de lui, d'ailleurs, son Hippocrate, tota mulier in utero, la femme est tout entière dans son utérus. Muriel Salles, comment justement l'hystérie est-elle formulée durant l'Antiquité?
Alors, l'hystérie, elle est formulée, ça a été dit, à partir de cette étymologie qui la rattache à un organe, et qui est un organe, j'allais dire, cardinal, un point d'orgue, ce qui structure à la fois le physique et le psychique chez les femmes, à savoir effectivement cet utérus. Alors c'est important de rappeler avec Hippocrate le rôle qu'on fait jouer à la matrice, hein, et la manière dont Hippocrate parle de cet utérus, comme, et je le cite, un animal désirant la procréation, et que l'inactivité va rendre furieux. Donc l'idée, c'est vraiment que chez les femmes, il y a au-dedans des femmes, dit Hippocrate, un animal qui a l'appétit de faire des enfants, et si cet appétit est insatisfait, eh bien l'animal en question, cet utérus, voilà, se jette, on lit toujours sous la plume d'Hippocrate, dans des angoisses extrêmes et provoque un peu en rebond toute une série d'autres maladies. Donc il y a vraiment cette formulation qui fait que on a une forme de rappel à ce qu'est le rôle à la fois biologique et social structurant des femmes, voilà, et le rappel à cette organe central et la nécessité effectivement de lui donner satisfaction pour remédier, faute de quoi on s'expose à tous ces symptômes qu'évoquait Pauline et qui ont l'avantage d'être tellement multiples qu'on trouve toujours un symptôme pour diagnostiquer une femme si on en a l'envie.
Je pense, on parle d'Hippocrate, mais on peut aussi prolonger aussi à Claude Galien, autre grande figure de la médecine occidentale, Muriel Salles, où là encore, on voit que l'hystérie se définit en creux comme la maladie des femmes sans hommes.
Oui, en gros, c'est ça, la maladie des femmes sans hommes, donc effectivement, des femmes qui sont restées infécondes parce qu'elles sont sans mari ou parce qu'elles n'en ont plus, ou parce qu'elles font le choix tout à fait mauvais pour leur santé, on aura compris que j'ironise, de rester effectivement célibataire, mais en tout cas, voilà, c'est une maladie contre laquelle on ne lutte jamais aussi efficacement qu'en se soumettant à ce qui doit être un destin à la fois biologique et social. Et puisque vous citez Galien, il y a une très, très grande continuité, c'est-à-dire Hippocrate puis Galien, finalement, c'est un peu réinvention d'un discours qui reste d'une très étonnante stabilité, jusqu'à ce que le 19e le réinvente, mais le réinvente sans le renouveler tant que ça finalement sur le fond. Hein.
Bien justement, comment le 19e se réapproprie ce concept, encore en mettant des guillemets, comment Freud et Charcot contribuent tous les deux à construire l'image des hystériques? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Pauline Chanu, Béatrice Garcin et Muriel Salles, nous parlons de l'hystérie. On vient de voir qu'au départ, l'hystérie est pensée comme une constellation de symptômes, de causes, avec la difficulté de la reconnaître, donc de l'expliquer. Et donc, elle a permis, cet aspect protéiforme, ça a permis justement de s'adapter à toutes les époques. On en arrive au 19e siècle, là où, à ce moment-là, c'est votre chapitre 5 d'ailleurs, Pauline Chanu, Jean-Martin Charcot organise justement ces spectaculaires conférences. On présente au public des patientes atteintes de ce qu'il appelle la grande hystérie. Alors aujourd'hui, comment avez-vous regardé ces patientes justement? Qu'est-ce qu'on comprend quand on regarde ces documents d'archives?
Moi, ce qui m'a intéressée dans ces archives, donc je suis allée regarder du côté de l'iconographie photographique de la Salpêtrière, dans laquelle on a à la fois, en effet, des photos de patientes qui ont circulé et qui imprègnent encore beaucoup nos imaginaires et qu'on a pu voir aussi reprises dans la fiction. Mais à côté de ces photos, il y a aussi des descriptions de ce que disent, en fait, les patientes de Charcot. À l'époque, on se rend compte que Charcot et ses acolytes, en fait, se moquent un peu de ce qu'elles racontent. Ils prennent en note plutôt, enfin, eux, ils s'acharnent plutôt à regarder les symptômes. Donc, par exemple, le fait qu'elles aient des zones hystérogènes, donc c'est-à-dire des zones d'insensibilité. On se rend compte que d'ailleurs, il y a un continuum avec l'histoire des sorcières et de la possession, puisque cette idée que les femmes ont des points insensibles, sur lesquels on peut les chercher avec une aiguille, voir si elles sont insensibles, c'était la marque du diable. Et donc, au 19e siècle, c'est devenu la marque des hystériques. Mais donc, à côté de ces différents symptômes, on voit que les patientes parlent et que toutes parlent de violences en fait, qu'elles ont vécues Moi, c'était vraiment l'angle de ma recherche, c'était de voir qu'en fait, la plupart des patientes de la Salpêtrière sont en fait des femmes qui ont été la plupart abandonnées, violentées, ont vécu des violences physiques et très souvent des violences sexuelles. Et qu'en fait, elles ont vécu des traumatismes très graves qui ne sont pas écoutés. Et au contraire, en fait, les médecins vont avoir tendance à y voir plus qu'un traumatisme, ils vont tendance à y voir, du fantasme. Et donc, ils vont érotiser, sexualiser les patientes de la Salpêtrière. Ils vont même les exhiber lors des fameuses leçons du mardi ou lors du bal des folles à la Salpêtrière. Et donc, Charcot va montrer comme ça des patientes qui ont des symptômes spectaculaires. Elles peuvent convulser, elles peuvent, et c'est peut-être le symptôme le plus connu, elles peuvent se courber en arrière, faire l'arc d'hystérie. Elles peuvent perdre la motricité d'un membre de manière très immédiate et puis recouvrir cette motricité quelques minutes plus tard grâce à l'hypnose. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, au début, quand j'étais aussi imprégnée de cet imaginaire, j'avais vu des fictions et je me disais, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas, ces symptômes? Est-ce qu'il les a inventés? Est-ce qu'il a... Parce qu'à un moment donné, on disait de lui que c'était un éleveur d'hystérique. Donc, est-ce que... Il hystérisait les patientes et ce qu'il jouait avec elles. Voilà. Et donc, j'ai découvert, notamment grâce à Béatrice Garcin, qu'en fait, si l'hystérie n'existe pas, en revanche, la souffrance et les symptômes de ces patientes existaient et existent encore.
Oui, cette souffrance qu'on voit à l'image, ce sont des souffrances bien réelles, Béatrice Garcin.
Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai un point de vue peut-être un peu plus pondéré que toi, Pauline, parce que, en fait, Charcot... Encore une fois, je ne suis pas une experte de l'histoire de la médecine, mais Charcot a quand même eu un certain mérite, dans le sens où, déjà, il s'est intéressé à ses patientes et il les a beaucoup décrites et il a décrit la sémiologie des troubles, qui est une sémiologie qui reste en fait quand même consistante dans le temps et qu'on retrouve encore aujourd'hui en grande partie. Notamment, un ensemble de signes cliniques, le fait que les troubles sensitifs se délimitent au milieu du corps, la manière de marcher, la marche qu'on appelle dragging leg avec le pied qui traîne, la dystonie aussi, point fixé. Toutes ces descriptions, en fait, on les utilise toujours aujourd'hui pour poser le diagnostic. Et finalement, c'est vraiment... le premier grand neurologue qui a mis cette maladie en avant et qui a aussi mis en avant le fait que c'est une maladie neurologique et qui est vraisemblablement liée à un dysfonctionnement du cerveau. Et il a même décrit le concept de lésion fonctionnelle qui rejoint finalement ce qu'on décrit aujourd'hui comme des dysfonctionnements de réseaux cérébraux qui sont présents dans ces troubles. Donc il y a quand même tout un ensemble de mérites, enfin de choses à lui rendre. Dommage à lui rendre. Et sur l'aspect des leçons du mardi, qui est en soi évidemment extrêmement critiquable et qu'on ne reproduirait pas aujourd'hui, il faut aussi souligner que l'enseignement de la médecine se faisait beaucoup de manière comme ça, théâtralisée, avec le patient sur une scène. Et que même moi, quand j'ai commencé mon internat, j'ai assisté à ce type de scène où le patient était, finalement, on lui donnait pas beaucoup de paroles et il était décrit par les grands professeurs comme le professeur Dubois ou le professeur Agide.
Mais cette mise en scène, on voit quand même qu'il y a une volonté, en effet, de visualiser le corps hystérique, la pathologie devient un objet visuel. Et d'ailleurs, Georges Didier Huberman parle de l'invention hystérique est rendue possible grâce à l'iconographie qui forge une conscience désormais esthétique de la pathologie. Et là, je me tourne vers vous, Muriel Salles, sur l'importance justement de cette iconographie.
Alors, moi, je crois que ce qui est important là dans ce qui a été dit, c'est quand même de relever l'évolution que marque Charcot, et puis ensuite de venir sur le fait que effectivement, non seulement on théâtralise, mais on photographie, on peut donner à voir, on peut montrer. Je crois que ce qui est important quand même, c'est de rappeler que Charcot, il n'est pas psychiatre. Effectivement, ça, c'est essentiel. Il est neurologue. Et donc, la grande avancée de Charcot, c'est de dire que l'hystérie est une maladie du système nerveux. Et donc, quand même, il y a une forme de progrès au sens où on avait une espèce de catégorie attrape-tout dans laquelle on pouvait être classé pour peu que on présente ce qu'on appelait, par exemple, la toux hystérique ou certains types de maux de tête ou toute une constellation de symptômes. Et là, avec Charcot, on met un peu d'ordre. Donc ça me paraît effectivement important. Et commence à y avoir ce que moi j'appellerais peut-être des symptômes cardinaux qui signent cette maladie. Et on peut plus fourrer à peu près n'importe qui dans une catégorie qui serait définie de manière un peu trop vaste. Et puis effectivement, ça, c'est très caractéristique du 19e siècle, mais ça, c'est aussi ce qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on produit de l'histoire des savoirs, et notamment quand on produit de l'histoire de la médecine, ben, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on le fait à un moment particulier, avec des moyens techniques particuliers, et peut-être aussi avec des objectifs particuliers. Et donc, le moment particulier du 19e siècle, ben, ça va être notamment le moment de la mobilisation de cette technique nouvelle, qui est la photographie, et qui, ça tombe bien, se prête particulièrement bien à la capture de postures, Pauline l'a très bien rappelé, qui sont remarquables et j'allais dire photogéniques, quoi, l'arc hystérique, voilà, c'est ce corps des patientes qui se cambre complètement en arrière, enfin, c'est, on a envie de faire une belle photo, quoi. Et puis, en plus, Charcot, il définit différentes phases de la maladie. Ça commence par des convulsions, des contorsions, des, ce qu'il appelle des attitudes passionnelles. On a des femmes qui sont prises en photo, les yeux levés au ciel, les mains jointes, les bras en croix, dans des attitudes de prière, voilà. Donc, tout ça est très photogénique. Et effectivement, les photographies qui sont prises à la Pitié, Salpêtrière, elles vont permettre de créer des séries, de montrer qu'il y a des trucs systématiques, que toutes les patientes se ressemblent, ça rentre magnifiquement dans le souci de la classification médicale, d'être systématique, voilà. Et puis, ça va permettre aussi de diffuser cet imaginaire parmi les médecins, et puis au-delà du corps médical strictement, hein, ça a été réédité, enfin, c'est disponible au début des années 2000, hein, cette iconographie, c'est très intéressant à aller voir.
Oui, en effet, hein, puisqu'en 1875, même la création d'un laboratoire photographique à la Salpêtrière, une revue photographique des hôpitaux de Paris en 1880, les images sont si fortes que voilà, on l'a vu, ça a été repris d'ailleurs dans L'Exorciste, et puis aussi par cette formidable artiste Louise Bourgeois avec cet arc hystérique. Pour revenir, on a donc Charcot qui, selon lui, voilà, l'hystérie, c'est une maladie du système nerveux. Béatrice Garcin, à ce moment-là, on a aussi le jeune Freud qui est stagiaire chez Charcot et qui va ouvrir une troisième voie en cherchant des causes inconscientes à l'hystérie. Ou alors plutôt Muriel Sage sur cette question, en effet, de cet autre regard sur ces patientes-là.
Pauline Chanu. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à Charcot. C'est que pour moi, Charcot, en effet, il a le mérite de dire que l'hystérie est curable et en effet de prendre en charge ces patientes. Néanmoins, on se rend compte que la sortie de l'hystérie de l'utérus n'est pas aussi simple, parce que quand même, un des remèdes qu'il propose, c'est quand même la compression ovarienne. Et par ailleurs, il regarde tout le temps quelle est la température vaginale des patientes, il regarde leur menstruation. Donc on voit que c'est pas que on n'a pas complètement abandonné cette idée de l'utérus. Et peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que dès le départ, en fait, il se passe quelque chose de très bizarre avec l'hystérie, c'est qu'à la fois c'est une maladie qui vient de l'utérus, mais qui en même temps a non seulement une influence sur donc le fonctionnement du corps, toute la physiologie féminine, mais aussi sur la psychologie féminine, en fait, sur le comportement des femmes. Donc voilà, moi, ce qui m'intéresse dans cette maladie, dans cette invention, dans cette fiction de l'hystérie, c'est ce lien que les médecins ont établi entre l'utérus et le cerveau des femmes, avec parfois des bonnes intuitions, hein, je dis pas du tout que tout est à jeter, mais néanmoins, j'ai l'impression, voilà, avec Charcot, on continue à être dans cette histoire de l'hystérie dans l'utérus. Et donc Freud lui assiste aux leçons de Charcot et dit que pour lui ça a été un maître. Contrairement à Charcot, lui, il va s'intéresser à ce que racontent ses patientes. Et il va en accueillir dans son cabinet à Vienne à la fin du 19e. Et dans un premier temps, ce qui est intéressant, c'est que Freud va se rendre compte qu'en effet, elles ont tout en commun d'avoir vécu des traumatismes. Donc pareil que pour les patientes de la Salpêtrière. Il va se rendre compte qu'en fait, souvent, le symptôme a un lien, l'endroit même du symptôme a un lien avec un trauma, soit une relation incestuelle ou incestueuse, soit des coups qui ont été portés, soit voilà. Mais le problème avec Charcot, c'est qu'il va renoncer à cette théorie. Et donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très discuté dans le milieu de la psychanalyse. Freud a finalement abandonné sa théorie du traumatisme au profit de la théorie du fantasme. Et va dire qu'en fait, c'est impossible qu'il y ait autant de personnes malades, enfin, suite à un traumatisme sexuel. Donc, en fait, ça va être le fantasme qui rend malade. Et là va être vraiment le nœud, en fait, de l'hystérie. C'est qu'à partir de ce moment-là, on va considérer que les hystériques, en fait, ont fantasmé et qu'elles sont malades d'un fantasme qu'elles n'ont pas pu assouvir. Et donc, c'est aussi lié au complexe d'Oedipe.
C'est ça, Muriel Salle. Freud laisse l'idée selon laquelle les hystériques somatisent.
Oui, et je crois que ce qui est très important dans ce que dit Pauline et qui fait qu'en fait, ça va tout, j'allais dire, toutes nous mettre d'accord, hein, mais c'est que, en fait, l'histoire de l'hystérie, ouais, comme beaucoup d'histoires, en fait, elle est traversée par un double mouvement de permanence et de mutation. Voilà. Il y a des permanences, effectivement, la référence à l'utérus qui apparaît, disparaît, mais enfin bon, qui reste quand même un truc qui est structurant sur la durée. Et puis, il y a des mutations. Et donc, Freud, est effectivement, après être passé par le service de Charcot, dont il admire la rigueur clinique, voilà. Lui, il conteste l'idée que les bases neurologiques identifiables, ça tient la route, voilà. Et donc, il va chercher ailleurs et il va chercher dans le psychisme et va proposer une autre lecture de la pathologie en estimant qu'effectivement la cause est psychique et pas neurologique et que tous les symptômes qu'on a évoqués, les paralysies, les crises, les douleurs, la phonie soudaine, enfin voilà, tout ça, c'est des expressions symboliques de ce qu'il appelle un conflit psychique inconscient. Et puis, lui, il va dire « lié à une sexualité refoulée ». Et ce que je trouve, moi, intéressant à relever là dans ces évolutions, c'est tout à l'heure, on a dit « Charcot, il se met à prendre des photos parce que c'est l'outil technique disponible. Donc, voilà, on s'en sert pour produire de la science parce qu'on est un homme de son temps. » Bon, voilà. Ce qu'il faut comprendre avec Freud, c'est que y a une idée. Là, c'est pas un outil, c'est une idée qui peut-être aurait pu être formulé, c'est ce que rappelait Pauline, c'est l'idée que les femmes sont massivement victimes de violences sexuelles et que c'est ça qui les rend malades. Mais pour que cette idée soit formulée, pardon d'enfoncer cette porte ouverte, mais il faut qu'elle soit formulable en fait, il faut qu'elle soit acceptable. Et on voit bien comment dans un tournant 19e, 20e siècle, cette idée-là, elle est simplement pas supportable, mais on le comprend d'autant mieux qu'aujourd'hui, on est au début du 21e. Quand on a eu, il y a quelques années de ça, des chiffres sur l'ampleur des violences faites aux femmes ou des violences sexuelles, ou plus récemment, je pense aux chiffres de la Civise sur l'ampleur des violences sexuelles faites aux enfants, l'idée, elle est inaudible, en fait. Et donc, on comprend que là, du coup, hop, d'une certaine façon, il botte en touche, a un petit coup de fantasme, parce que ce qu'il est en train de découvrir, c'est pas qu'il est de mauvaise foi, c'est ça, je crois qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il y a peut-être des moments où il y a des choses, on ne peut simplement pas supporter de les voir, donc on ne les voit pas, en fait. Voilà, c'est l'inconscient de Freud qui nous parle presque.
Mais tout à fait, pour compléter les chiffres que vous évoquez, en effet, au moins une personne sur 10 ont vécu des violences physiques dans l'enfance, en majorité de l'inceste. Et selon le ministère des Solidarités, un enfant est victime d'agressions sexuelles toutes les 3 minutes en France. Alors comment ce concept ancien, stigmatisant, péjoratif, erroné, est-il encore utilisé aujourd'hui? Quelles sont ses réminiscences? Restez à l'écoute.
Don't you know I never knew you, but I think I love you, girl. And what's your name, boy? You know the devil's in the details, like, girl, you gave me rabies, and I don't mean maybe. Took a drink of a dream smoothie, and all of a sudden I'm feeling very loopy.
Hystéria de Kurt Weill en direct sur France Culture, car nous parlons de l'histoire de l'hystérie en compagnie de nos trois invités du jour, Pauline Chanu, journaliste et documentariste, Béatrice Garcin, neurologue à l'hôpital Avici à Nabobigny, chercheuse à l'ICM et professeure de neurologie à l'université Sorbonne-Paris-Nord, et Muriel Salles, historienne, maîtresse de conférences à l'université Claude-Bernard Lyon 1. On vient de voir comment l'hystérie a traversé les siècles en changeant de visage, considérée d'abord comme un mal lié à l'utérus, puis l'expression d'une déficience mentale féminine. Son histoire révèle comment le corps des femmes a été et encore utilisé pour décrédibiliser une parole. Aujourd'hui, il ne fait plus, enfin, ce terme ne fait plus partie donc des manuels de diagnostic, mais pourquoi d'ailleurs a-t-il été évincé de ce fameux DSM, Muriel Salles ?
D'abord, c'est peut-être important de donner quelques dates. Je vais effectivement jouer mon rôle d'historienne en disant que le terme hystérie il disparaît de la classification internationale des maladies en 1975. Il y figure encore jusqu'en 1975, mais on parlait de névrose hystérique et il disparaît officiellement en 1992. Voilà, je m'en mêle pas les pinceaux. 1992, où là, il disparaît, mais en fait, il disparaît, il est remplacé. Je pense que Pauline y reviendra. On parle maintenant de troubles dissociatifs de conversion ou de troubles somatoformes. Et puis après, les choses, elles ont encore évolué. En 2022, les catégories, elles se sont affinées. Ça nous permet peut-être de retenir une idée importante qui est que les catégories diagnostiques, les contours d'une maladie, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre, c'est pas quelque chose qui existe à l'état de nature, hein, c'est une fabrication intellectuelle. Ça veut pas dire que ça n'existe pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un moment où on décide de donner du sens à une série de symptômes qu'on rapproche et dont on va décider qui trace les contours de ce qu'on appelle une maladie. Bon. Et donc, à partir des années 92, la pertinence de cette catégorie diagnostique, elle disparaît. Elle disparaît au profit d'autres façons de formuler les choses, pour différentes raisons. Je pense que peut-être d'abord, il y a certaines manifestations, on a évoqué l'arc hystérique, par exemple, qui sont peut-être plus rarement observées, mais là, je parle sous le contrôle de Béatrice Garcin, hein, qui en dira peut-être quelque chose aussi. Et puis, parce que le regard qu'on porte sur les femmes de manière générale, il évolue quand même au milieu des années 90. Et donc, une femme qui resterait sans enfant, une femme qui aurait des comportements qui sont peut-être pas parfaitement dans la conformité sociale, elle ferait l'objet d'un regard qui est quand même pas tout à fait le même qu'au 19e siècle. Là, il y a des mutations importantes et dont il faut se réjouir.
Pauline Chanu, pour compléter ce que vient de dire Muriel Salles par rapport en effet aux nouvelles appellations auxquelles on fait face aujourd'hui.
En fait, peut-être que déjà, je peux raconter comment moi j'ai enquêté sur la persistance de l'hystérie. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je pensais que c'était un sujet en grande majorité historique. Donc, j'avais vraiment en tête notamment les patients de la Salpêtrière et Freud dont on vient de parler, en sachant bien sûr que le terme hystérique continuait de stigmatiser les femmes et notamment les femmes politiques. On a souvent en tête quand on parle de l'hystérie ces hommes qui taxent sur les plateaux télé les femmes d'hystériques ou qui leur demandent de se calmer. Et je me suis demandé quel était le lien entre ces hommes sur les plateaux télé et
le fameux ça va bien se passer.
Voilà, exactement. Calmez-vous, madame. Et donc, en fait, au tout début de cette enquête, j'ai fait quelque chose que je fais pas trop d'habitude quand je fais des documentaires. J'ai fait un appel à témoignages parce que c'était compliqué pour moi de trouver une association d'hystériques pour savoir si ça existait. Donc en fait j'ai fait un appel à témoignages sur plusieurs réseaux sociaux et donc là j'ai été étonnée de découvrir que plein de femmes m'écrivaient en me disant qu'elles avaient été diagnostiquées hystériques, qu'elles avaient reçu un diagnostic d'hystérie, ou bien qu'elles avaient reçu une expertise d'hystérie ou de traits de personnalité hystérique lors de procès pour violence conjugale, lorsqu'elles accusaient leur compagnon de violence conjugale ou d'inceste. Donc en fait, je me suis rendu compte que l'hystérie, certes, avait disparu des classifications, mais néanmoins était encore utilisée telle quelle. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, aujourd'hui, on trouve des médecins, des infirmiers, des soignants qui peuvent dire, ou se dire plutôt, entre eux, parce que c'est un diagnostic qui est souvent... rarement donnés directement à la patiente, peuvent se dire elle est hystérique, elle fait une hystérie de conversion, c'est une conversion hystérique ou d'autres synonymes, elle est hystéro-borderline, hystérique et bipolaire. Voilà, ça peut être aussi associé à d'autres diagnostics. Et puis, je me suis fondée aussi sur les travaux de deux sociologues, Julia Legrand et Yvan Garek, qui tous deux ont enquêté dans les hôpitaux psychiatriques et se sont rendus compte, en effet, que le diagnostic était encore posé. Donc, je me suis demandé qui le désignait, enfin, à qui il était apposé ce diagnostic. Et je me suis rendu compte que c'était toujours des femmes, en fait. Je ne trouvais pas d'hommes. Alors, je sais que ça existe parfois, mais enfin, moi, je n'en ai pas trouvé. Mais ce que j'ai trouvé, c'est des femmes qui ont été longtemps en errance diagnostique parce que, voilà, il y avait ce stigmate. Elles étaient marquées du sceau de l'hystérique, en quelque sorte. Et à partir de ce moment-là, les médecins arrêtaient de chercher ce qu'elles avaient, et elles pouvaient se retrouver à développer des maladies et même avoir des effets secondaires du fait de ne pas avoir reçu un diagnostic rapidement. Et puis après, il y a d'autres diagnostics, peut-être qu'on y reviendra ensuite, qui, pour moi, reprennent l'étiologie de l'hystérie, mais qui n'ont plus le nom.
Bah, où sont passées les hystériques? C'est la question que vous posez, en effet, dans votre essai. Et je vous propose cet extrait. L'hystérie sert d'indice, de repère. Là où elle apparaît, là où son nom est prononcé, il y a une volonté de faire taire. C'est un mot piégé, qui nous monte aussi rapidement à la bouche qu'il referme celle des hystériques. Car dans cette spirale de violence, l'hystérie agit comme un parfait mécanisme de censure et d'autocensure. C'est un système d'oppression et de silenciation dans lequel différentes institutions se relaient pour redresser celles qui tentent de dénoncer l'injustice, la violence, le traumatisme, la douleur. Car l'hystérie ne tombe pas du ciel. Et pour qu'il y ait hystérisation, il faut d'abord des hystériseurs. Les émissions et les ouvrages consacrés à l'hystérie ont l'habitude de s'interroger sur le mystère de sa disparition. Où sont passées les grandes hystériques, les folles de la salpêtrière, les pin-up médicales? Ces patientes excitantes, fascinantes, repoussantes et effrayantes, tout à la fois. Mon enquête pose la question inverse. Pourquoi continue-t-on à voir l'hystérie partout? Pourquoi est-elle associée à la colère, à une réaction face au danger et à la violence, aux symptômes et aux manifestations du traumatisme? Muriel Salle, une réaction à l'écoute de cette lecture?
Je trouve que ce qui est très fort, moi, dans ce qu'écrit Pauline ici, c'est qu'on met le doigt sur ce qu'est la, peut-être ce que je vais appeler la fonction de l'hystérie, puisqu'on a vu qu'elle est impossible à définir, qu'elle traverse le temps, voilà, mais qu'elle remplit quand même de manière assez systématique et tout au long de son histoire une fonction très efficace qui est une fonction de disqualification. Voilà, on disqualifie les personnes ou les patientes qui sont concernées dès lors qu'on a cet étiquetage. La valeur de votre parole, votre crédibilité, quel qu'en soit le cadre d'énonciation, hein, Pauline le disait, dans un cadre juridique par exemple, au même titre que éventuellement dans un cadre médical, la parole, elle se trouve disqualifiée. On voit bien comment il y a un grand risque à être qualifié d'hystérique. Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça, Pauline, qu'on l'avait évoqué un peu. Là, il y a pas d'association d'hystérique, parce que autant sur certains sujets, on commence à voir des stigmates se renverser, comme on dit. Donc, on peut se revendiquer sorcière, par exemple. C'est devenu une évocation qui peut être positive. Se revendiquer hystérique, on n'y est pas encore, quoi, parce que le risque à courir est quand même très grand. Et ça, c'est un risque dont la constance me frappe quand même, je trouve, quand on entend cet extrait.
Mais ça n'est plus une catégorie diagnostique officielle, donc, mais Muriel Salle, on a quand même, on voit des traces, voilà, d'une grosse différence de prise en charge entre femmes et hommes.
Ah ben, en matière de santé mentale particulièrement, ou de manière générale, parce que là, on peut
les deux, mon capitaine,
très largement, mais oui, ben non, mais en matière de santé mentale, c'est très frappant. Enfin, quand on s'intéresse, comme c'est mon cas, à la question de la prévalence genrée des maladies, voilà, savoir pourquoi dans certaines pathologies il y a plus de femmes que d'hommes, ou inversement, bon, c'est très frappant de voir comment en santé mentale, par exemple pour la dépression, on a deux, parfois trois fois plus de femmes que d'hommes, voilà. Et ce qui, moi, je trouve intéressant à explorer, c'est on s'est toujours posé la question de savoir quelle était l'origine de cette faiblesse féminine particulière qui les rend, alors on a dit suggestibles pour l'hystérie, mais grosso modo qui les rend fragiles psychiquement. Bon, voilà, on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Moi, je trouve que c'est aussi intéressant de revenir à la manière dont on fabrique des catégories diagnostiques. Bon, quand on définit une catégorie diagnostique qui est un peu faite sur mesure, hein, on n'est pas très surpris qu'elle aille finalement comme un gant aux personnes auxquelles elle est destinée. Donc, par exemple, la dépression, c'est très frappant. La dépression, la manière dont on décrit canoniquement une personne dépressive correspond à la manière dont les femmes plus particulièrement expriment la souffrance psychique. Donc, est-ce que c'est du coup surprenant qu'on ait une surreprésentation de femmes? Pas forcément. C'est important là du coup de dire typiquement que la souffrance psychique de type dépressif chez l'homme, elle existe aussi. Sauf qu'elles se manifestent autrement, et comme elles ne rentrent pas dans les cases, ils sont plutôt agressifs, ils vont avoir une tendance à abuser de substances psychoactives, voilà. Ben, ça ne rentre pas dans les cases telles qu'elles ont été définies, donc, et on échappe aux symptômes, en fait. Donc voilà, surreprésentation, sous-représentation, ça tient évidemment au fait que les patients et les patientes existent, oui, mais ça tient aussi à la façon dont on taille les costumes, si je puis dire, pour aller plutôt aux unes et plutôt moins aux autres, ou réciproquement.
Pauline Janu, pour rebondir sur ce que vient de dire Muriel Salles.
Oui, ce qui a pour conséquence aussi d'une prescription médicamenteuse plus importante pour les femmes. Les anxiolytiques et les antidépresseurs sont deux fois plus prescrits pour les femmes. On se rend compte aussi que les électrochocs, en fait, aujourd'hui encore, on fait des électrochocs en France. Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas très souvent, mais en fait, c'est une pratique qui est encore relativement courante. Et on se rend compte que 63% des personnes qui subissent des électrochocs, c'est souvent dans le cas d'ailleurs de dépression sévère, de longue dépression, et donc ce sont des femmes, 67% pour les États-Unis. Donc effectivement, il faut à la fois s'interroger sur ces catégories. Je parlais des catégories qui aujourd'hui pour moi reprennent en partie cet imaginaire de l'hystérie. Donc par exemple le trouble de la personnalité histrionique qui apparaît au moment où l'hystérie disparaît, et le trouble de la personnalité histrionique reprend justement cet imaginaire de la suggestibilité, de l'allumeuse, de la personne qui théâtralise, tous ces termes, on les retrouve, qui sont pour moi très stigmatisants, qui en effet adhèrent complètement à des stéréotypes misogynes, et donc qui sont beaucoup plus diagnostiqués chez les femmes que chez les hommes.
Béatrice Garcin.
Oui, si on revient sur la question de où est passée l'hystérie, je pense qu'on a bien vu le fait que l'hystérie, c'est un terme qui est utilisé de plein de manières différentes pour disqualifier les femmes. Mais quand on revient à la question de l'hystérie médicale, enfin, en tout cas, diagnostic prononcé par les médecins, finalement, c'est ce que tu disais un peu, Pauline, là, à l'instant, on voit qu'il y a déjà un amalgame entre deux concepts, en fait. Une maladie neurologique qui se manifeste par des symptômes neurologiques et qui, aujourd'hui, a changé de nom et est plutôt qualifiée de trouble neurologique fonctionnel depuis donc la version 5 du DSM, la classification américaine des maladies psychiatriques. Et puis, il y a, d'un autre côté, les troubles de la personnalité, avec cette personnalité histrionique qui, voilà, je rentrerai pas dans le détail de la personnalité histrionique, mais qui, en fait, en soi, n'a aucun rapport avec le trouble neurologique fonctionnel. Et il y a aucune étude qui montre que les personnes qui ont un trouble neurologique fonctionnel ont plus de personnalité de type histrionique. Bien au contraire. Donc déjà, il y a un énorme amalgame sur ce sujet-là. Et finalement, quand on revient donc aux troubles neurologiques fonctionnels, finalement, aujourd'hui, depuis 2013, on l'appelle trouble neurologique fonctionnel ou, dans la classification internationale des maladies, trouble dissociatif. Et finalement, c'est peut-être ça qui est devenu l'hystérie aujourd'hui, enfin, à mon sens, de neurologue en tout cas.
Justement, comment sont compris ces fameux TNF qui se ressentent sur la question du traumatisme? Restez à l'écoute.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Pauline Chaloux, Béatrice Guersin et Muriel Salles, nous parlons de l'histoire de l'hystérie. On a vu que l'hystérie fait partie de ces pathologies, toujours avec des guillemets, dont la scientificité se mêle aux préjugés moraux et culturels. Béatrice Guersin, vous avez publié l'article « Au revoir l'hystérie, bonjour les troubles neurologiques fonctionnels, la place du psychiatre ». Vous pensez donc que les patientes de Charcot souffraient donc de TNF. Alors quels sont justement ces symptômes? Comment se pose un diagnostic comme celui-ci?
Oui, tout à fait. Je pense qu'elle souffrait de TNF. Donc, en fait, il n'y a pas une bonne définition des TNF, mais si on veut le faire simple, en gros, c'est des patients qui ont des symptômes neurologiques qui ne sont pas liés à des lésions du système nerveux. Ces symptômes neurologiques, dans la définition du DSM, ce sont une atteinte de la fonction motrice, donc un déficit moteur, une faiblesse, ou des mouvements anormaux qui sont souvent un tremblement ou une posture anormale. On appelle ça une dystonie. C'est des patients qui peuvent aussi avoir des crises qui ressemblent à de l'épilepsie, qu'on appelle les crises fonctionnelles dissociatives, qu'on appelait jusqu'à encore récemment les crises non épileptiques psychogènes. Et puis, ils peuvent aussi avoir une atteinte sensorielle, donc un déficit sensitif, un trouble de la vision, un trouble de l'audition notamment. Alors, la définition, elle est assez imparfaite parce qu'elle est en fait posée, enfin, c'est une définition par la négative, c'est-à-dire pour parler de TNF, il faut qu'il n'y ait pas de lésion du système nerveux, alors qu'on sait qu'il y a des dysfonctionnements au niveau cérébral. Et de ce fait, on est en train de la retravailler avec des collègues de la FND Society, donc la Société internationale des troubles neurologiques fonctionnels. L'idée, c'est que en fait, ce sont des symptômes qui sont liés à des dysfonctions de réseaux cérébraux qui surviennent chez des personnes qui ont une vulnérabilité individuelle, donc un ensemble de facteurs de risque qui augmentent la probabilité de développer ces troubles et qui sont le plus souvent déclenchés par des événements, des facteurs traumatiques et surtout des traumatismes pour le coup physiques comme facteur déclenchant.
Là, vous dites en effet que ces troubles qui se situent donc à la frontière entre la neurologie et la psychiatrie.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une vraie difficulté qu'on a parce que en fait, les patients ont des symptômes neurologiques, donc ils viennent voir les neurologues pour leurs symptômes, en toute logique en fait. Mais pour poser le diagnostic, on s'appuie sur des critères psychiatriques. Donc on voit bien qu'on est un peu entre deux spécialités. Et on a vraiment le sentiment que pour une prise en charge optimale, l'idéal c'est d'associer nos compétences de neurologue et de psychiatre.
Je voyais que dans les prises en charge, justement, c'était très multidisciplinaire. On voit une collaboration étroite entre neurologues, psychiatres et éducateurs pour prendre en charge ces patients. D'ailleurs, au niveau de la prévalence, quelle est la prévalence des TNF?
En fait, c'est une maladie qui est très fréquente. En neurologie, c'est le deuxième motif de consultation après les maux de tête, donc après les céphalées. Donc voilà, on sait que ça représente au moins une personne sur 1000. Donc clairement, une maladie fréquente pour nous, neurologues, oui.
Ça, par rapport justement au lexique, Pauline Chanu, c'est quelque chose d'important de mettre des mots et de recalibrer différemment le diagnostic et la prise en charge des patients?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est quand même une bonne chose que ça ne s'appelle plus hystérie. Ce que je voulais dire en écoutant Béatrice Guersin, c'est aussi parce que j'ai pu rencontrer certaines patientes de Béatrice et puis des patientes donc qui souffrent de TNF. C'est que ce à quoi elles ont fait face la plupart du temps, c'est qu'on a pu les accuser de simuler leurs symptômes. Et c'est ça, j'ai l'impression, la difficulté à laquelle elles sont confrontées, à laquelle vous êtes confrontés vous aussi, c'est de montrer qu'en fait ça existe. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lésion fonctionnelle, de lésion organique que ça n'existe pas, que cette souffrance elle existe, que ces traumatismes ils existent, et donc qu'il faut pas ajouter du trauma au trauma, parce que souvent ces patients ont été en errance diagnostique parce qu'on a pu leur dire c'est dans votre tête, vous n'avez rien, et donc être envoyé vers la psychiatrie, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais en tout cas ça voulait dire vous n'avez rien, vous n'avez rien, ce qui est très particulier, parce qu'en fait, dès qu'on dit que c'est psychosomatique, c'est vous n'avez rien.
Mais alors que, en fait, tout simplement, à partir du moment où les gens souffrent, faut les prendre au sérieux, même si c'est purement mental. Et on a, alors vraiment, en 10 secondes pour conclure, parce qu'on est vraiment arrivé à la toute fin de cette émission, Béatrice Guersin, en fait, il y a aussi un souci du côté de la formation des docteurs par rapport à ces TNF.
Oui, en fait, jusqu'à septembre là, de cette année, les TNF n'étaient pas dans le cursus... dans le cursus des étudiants en médecine. C'était pas dans le programme. Et voilà, on a écrit un chapitre qui vient de sortir dans le nouveau référentiel du Collège des enseignants de neurologie. Donc, dorénavant, les étudiants seront formés. Et on espère que ça fera avancer les choses positivement.
Ben merci. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbault. Mais pour prolonger l'écoute, je rappelle, Pauline Chanu, que votre ouvrage « Sortir de la maison hantée, comment l'hystérie continue d'enfermer les femmes » vient de paraître aux éditions de La Découverte et que votre ouvrage, Muriel Salles, va être réédité sous le titre « Femmes et santé toujours, une affaire d'hommes ». Ce sera le 26 novembre. Merci à vous trois, merci grandement de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, il est question d'expérimentation animale. C'est la chronique avec science d'Alexandra Delbault.
Toute la semaine, on s'intéresse à l'expérimentation animale et comment s'en passer, avec aujourd'hui les cellules en boîte. Les modèles dits in vitro se sont développés au XXe siècle à partir du moment où l'on a réussi à mettre des cellules en culture. Cela signifie leur mettre de quoi manger dans des conditions de température idéales, donc 37 degrés pour les cellules humaines, avec le bon pH, et les protéger des micro-organismes. Les scientifiques ont d'abord commencé par mettre en culture des morceaux de tissu entier pour ensuite isoler chaque type cellulaire. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les cellules cessent de se diviser, comme c'est le cas naturellement dans l'organisme. La grande révolution en culture cellulaire est venue avec les premières lignées cellulaires immortelles, notamment grâce à une femme nommée Henrietta Lacks. Franceline Marano est professeure émérite de biologie cellulaire et de toxicologie à l'Université Paris Diderot et coordinatrice de l'ouvrage « Quelles alternatives en expérimentation animale » paru aux éditions Coué.
La lignée dite la lignée Ella, là, qui était la première lignée immortelle humaine venant d'un cancer du col de l'utérus d'une Américaine qui, en fait, est restée célèbre sans le savoir parce qu'elle est morte très rapidement après ce prélèvement qui a été établi par un chercheur, Georges Gene, sans la prévenir, sans son consentement. La particularité de ces cellules, c'est qu'elles sont capables de se diviser éternellement. Donc, c'est une lignée immortelle. Elle a joué un rôle très important, cette lignée-là, parce qu'on a ensuite utilisé la lignée pour toutes sortes d'expériences, par exemple pour étudier les mécanismes de la division cellulaire. Et puis, on l'a utilisé aussi en toxicologie, quand on s'est dit qu'il faudrait avoir des alternatives à l'expérimentation animale. Et pour tester des médicaments, par exemple, au début de leur développement, eh bien, on a pu utiliser la lignée LA pour voir si telle ou telle molécule était toxique, c'est-à-dire provoquer la mort des cellules. Donc cette lignée a été et encore utilisée.
Les cellules d'Henrietta Lacks se trouvent dans tous les laboratoires du monde. Ses descendants n'ont d'ailleurs été informés de la diffusion massive de ce prélèvement que dans les années 70, sans aucune compensation financière, malgré la petite dizaine de milliers de brevets utilisant des cellules ELA. Sa famille est encore aujourd'hui engagée dans une bataille judiciaire. Et après les cellules immortelles, c'est au tour des cellules immortalisées de voir le jour dans les années 90. C'est le même principe, elles ne sont pas cancéreuses, mais on ajoute des gènes pour lever manuellement le blocage du cycle cellulaire. Le problème cette fois, c'est qu'au fil des divisions, les cellules perdent leurs caractéristiques. Les cellules de peau ne ressemblent plus à des cellules de peau, les neurones ne ressemblent plus à des neurones, toutes perdent leur différenciation. C'est pour cela qu'autant en recherche fondamentale qu'appliquée, il faut redoubler d'efforts pour rendre les modèles in vitro de plus en plus sophistiqués. C'est le cas par exemple pour étudier la toxicité des particules diesel ou des polluants atmosphériques.
Pour pouvoir bien comprendre comment ces polluants agissent sur cet épithélium bronchique, il faut qu'ils conservent toutes ces caractéristiques en culture. Et ça, à partir de lignées cellulaires, c'est quasi impossible. Pour mimer ce qui se passe dans les bronches, les cultures sont faites sur une membrane. Sous la membrane, vous avez le milieu de culture qui mime ce qui provient de notre milieu intérieur. Et puis, à un certain moment, eh bien, on les met à l'interface dite air liquide, c'est-à-dire en relation avec l'atmosphère. Et là, elles se différencient en épithélium mucociliaire comme comme l'épithélium bronchique. Et c'est là qu'on va réaliser les expériences. Les cellules se comportent en fait comme si elles étaient, si vous voulez, in vivo. Hein. L'intérêt d'un modèle comme celui que je viens d'évoquer, hein, c'est que ça permet d'avoir une approche beaucoup plus fine que si c'est sur un animal.
Ces modèles in vitro permettent d'étudier avec précision ce qu'il se passe à l'échelle moléculaire et donc, parfois, d'éviter le recours aux modèles animaux. C'est le cas surtout en recherche fondamentale, mais cela pourrait, à terme, concerner la recherche clinique. Aux États-Unis, une nouvelle loi permet depuis 2 ans à l'agence américaine d'autoriser des essais chez l'humain sans obligation d'expérimentation animale au préalable. Mais attention, in vitro ne veut pas dire sans animaux. Pour faire pousser des cellules, on utilise un milieu nutritif très riche appelé sérum de veau fœtal. Autrement dit, une fraction de sang prélevée lors de l'abattage de vaches gestantes. C'est là tout le paradoxe. Même les techniques présentées comme une alternative à l'expérimentation animale reposent encore sur elles. Cela tend à présent à changer à cause de ce problème éthique majeur, mais aussi de la variabilité de ces échantillons. Des solutions émergent avec des milieux 100% synthétiques ou dérivés de plasma humain. Reste donc à les généraliser.
Merci Alexandra pour votre chronique. Et grande nouveauté de cette rentrée à France Culture, le fil Culture G. Chaque jour, c'est un coup de projecteur qui éclaire notre actualité, philo, éco, histoire, science, bien sûr. En 3 minutes 30 du lundi au dimanche, les experts mettent notre monde en perspective. Et tout de suite, le fil science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains.
Est-ce que les humains pourraient devenir totalement imberbes ? Un avenir sans poils, tant chez les hommes que chez les femmes, est-il possible ? En fait, vous avez toutes et tous des poils, et même beaucoup de poils. Environ 5 millions, très régulièrement répartis. C'est autant qu'un chimpanzé. Mais les nôtres sont plus fins, sauf au niveau de la tête, cheveux et sourcils, des aisselles et du pubis. Et en plus, certaines personnes ont des poils apparents sur le visage, sur les membres, voire même sur le dos. Donc, quand on parle de devenir imberbes tous, c'est l'idée de ne plus avoir certains de ces fameux poils apparents. Alors, rappelons-nous déjà que toutes les populations humaines ne sont pas égales en termes de poils. Bien des populations humaines ont naturellement beaucoup moins de ces poils apparents. C'est le cas, par exemple, de certaines populations amérindiennes, inuites, asiatiques et africaines. Elles n'ont pas de barbe, ni de poils sur les jambes. Et à l'inverse, d'autres populations, comme en Europe, sont naturellement fort poilues, du moins leurs représentants masculins. En général, les femmes de ces populations sont moins poilues que les hommes, mais elles ont aussi des poils. Il existe même des femmes à barbe. On observe d'ailleurs une grande variabilité dans la pilosité, surtout chez les hommes. Barbe, moustache, poils du thorax, du dos, des membres, des oreilles, car l'intensité de ce pelage est gouvernée par une hormone, la testostérone. Et en plus, selon les cultures, les poils sont soit encouragés, barbe et cheveux longs, soit rasés, selon des normes religieuses ou hygiéniques. Si on veut savoir comment les humains pourraient perdre ces poils, il faut comprendre d'où ils viennent. Raisonnablement, on peut exclure une adaptation à des zones froides par sélection naturelle, car dans ce cas, les femmes aussi devraient être poilues. L'hypothèse la plus vraisemblable est émise par le père de la théorie de l'évolution, le naturaliste britannique du 19e siècle, Charles Darwin, et celle d'une sélection sexuelle. Autrement dit, les hommes avec des poils, et notamment de la barbe, plaisaient plus et étaient préférés pour la reproduction. Et comme les poilus donnent naissance à des poilus, les poilus sont devenus de plus en plus présents dans les populations au fil des siècles. Alors, comme le dit ma collègue Priscille Touraille, si les femmes européennes se plaignent aujourd'hui d'être trop poilues, selon l'hypothèse de Darwin, elles ne le doivent qu'à leur attirance pour les hommes poilus. Les pratiques esthétiques permettent de contrer les effets d'une telle sélection. Mais les poilus continueront de donner naissance à des poilus. Pour que tous les hommes et les femmes d'Europe perdent leurs poils et redeviennent imberbes, il faut envisager un processus évolutif en sens inverse. Les poilus ne devraient pas laisser de descendance. Et là, ce n'est plus de la science.
Merci Evelyne Heyer pour ce fil science et puis merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Alexandre Morales, Joseph Schlegel à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Axel Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.